RFI, grand reportage.
Nathalie Amar.
Et nous sommes aujourd'hui encore en Mauritanie à l'occasion du 20e anniversaire des événements de 89, comme on dit là-bas, en avril de cette année-là. Un banal incident frontalier entraînait un déferlement de violence en Mauritanie et au Sénégal. On compte alors des centaines de morts, des dizaines de milliers d'expulsés de part et d'autre du fleuve. La Mauritanie est alors dirigée d'une main de fer par Maouya Sidi Ahmed Taïa. Et après les expulsions, c'est la chasse aux communautés noires qui commence. Armée, police, douane, gendarmerie, des centaines de militaires noirs sont arrêtés. 20 ans après ces événements, la Mauritanie commence à regarder son passé en face. Il y a quelques semaines, le général putschiste Mohamed Abdelaziz a décidé d'indemniser les veuves et les orphelins de ces militaires assassinés. La question de savoir s'il faut juger les criminels de l'époque reste cependant en suspens. Grand reportage, Manon Rivière, on écoute et on retrouve Manon tout de suite après.
Ce pays est malade. Ce pays, la Mauritanie, je le dis toujours, a perdu son âme. Il est devenu fou. Qu'est-ce qu'il pouvait penser que pouvait y avoir ces violences dans ce pays-là? La Mauritanie a perdu son esprit. Et je le dis partout. La Mauritanie a perdu sa dignité. Il faut rétablir ça. C'est par le dialogue, par la sincérité. Si les gens sont de bonne foi, on peut dépasser tout ça. Et construire maintenant un pays où il fait bon vivre, un pays viable. Un pays où on accepte le droit à la différence. Parce que la Mauritanie est un pays multinational.
En 1989, une querelle foncière entre éleveurs mauritaniens et cultivateurs sénégalais vient alimenter les tensions politiques et ethniques des deux côtés de la frontière. Les morts installés au Sénégal depuis parfois plusieurs générations sont expulsés, tandis que la chasse aux noirs commence en Mauritanie, entraînant l'exil de plusieurs dizaines de milliers de personnes. Selon Human Rights Watch, la politique d'arabisation menée ensuite par le régime du président mauritanien Maouya Sidi Ahmed Taïa a eu des conséquences dramatiques. D'après l'enquête réalisée par l'ONG en 1994, plus de 500 Mauritaniens, majoritairement des Al-Poulars, ont été tués au cours des purges survenues au sein de l'armée entre 1990 et 1991. Pour le professeur Dia, psychiatre, les blessures psychologiques restent importantes aujourd'hui, 20 ans après les faits. Difficile en effet de vivre ensemble quand les cauchemars perdurent.
J'ai connu un sergent qui a vu massacrer la plupart de ses camarades, qui jusqu'à présent prend des neuroleptiques majeurs parce qu'il est très halluciné. Les morts le persécutent tout le temps, ils le poursuivent, le menacent. Il prend encore des neuroleptiques, il ne peut pas s'en passer. Il y en a beaucoup comme ça, il y a énormément de gens qui sont tombés malades. Beaucoup ne se rendent pas compte que la population négro-africaine a été fortement traumatisée et que le fait d'en parler de façon saine, ouverte, permettrait une réconciliation complète. Et ça permettrait effectivement d'apaiser les angoisses des populations du fleuve.
Resté au pouvoir seulement 15 mois avant d'être renversé par un putsch militaire le 6 août dernier, Sidi Oulcher Abdallah a osé s'attaquer au délicat dossier de l'unité nationale. En janvier 2008, sous la houlette du HCR, il donne ainsi le coup d'envoi du rapatriement des quelques 20 000 réfugiés mauritaniens résidant encore au Sénégal. Même si les conditions matérielles de ce retour laissent parfois à désirer, il s'agit là du premier geste fort en vue de favoriser la réconciliation. Aujourd'hui, les autorités issues du dernier coup d'État s'attaquent à un dossier encore plus sensible, celui des militaires assassinés dans les rangs de l'armée il y a près de 20 ans. Pour Demba, qui a souhaité conserver l'anonymat, seule la vérité et la justice pourront un jour apaiser les douleurs.
C'est une plaie qui a touché toute la Mauritanie et qui est difficile de cicatriser tant qu'il n'y a pas eu ce qu'on appelle cette table ronde où les gens vont s'expliquer, discuter entre eux, c'est-à-dire toutes les composantes. Des Wolof, des Al-Poulars, des Souniki, des Beydan. Il faut qu'on s'assoie pour discuter ce qui s'est passé. Bien sûr, les auteurs doivent être les premiers à être là. Certains généraux sont impliqués. Je préfère employer le conditionnel. Si ces généraux sont impliqués, comment ça va se passer? Pour qu'il y ait une unité nationale, une cohésion nationale, où toutes les composantes vont se retrouver. Il faut que les auteurs soient connus et jugés. Sinon, faire le pardon comment? Ça n'a pas de sens.
Le Le 25 mars dernier, les autorités mauritaniennes issues du putsch se rendent à Kaédi, dans la vallée du fleuve Sénégal. L'objectif, prononcer un discours à la mémoire des victimes des années de plomb et prier ensemble pour les disparus. Une démarche à ce jour inédite en Mauritanie. À la tribune, le général Mohamed Ould Abdelaziz prend la parole. Il était au moment des faits le commandant du BASEP, le bataillon de la sécurité présidentielle.
Je ne crois faire en aucune façon autre chose qu'un devoir en venant à Kaédi, partager avec vous, chers citoyens, l'affliction causée à des dizaines de familles par l'ignorance et la barbarie de l'homme. Je suis à la fois triste et heureux, triste parce qu'il y a une perte de vies humaines sans raison, parce qu'il y a des orphelins, parce qu'il y a des veuves. Je suis heureux parce que les affligés ont fait preuve de magnanimité et d'indulgence. Je suis heureux parce qu'Allah leur a donné le courage de surmonter leur douleur et la force d'essuyer les larmes de l'amertume sans ressentiment. Mesdames, Messieurs, chers citoyens, aucune indemnisation, aucune compensation n'équivaudrait à une vie humaine. Je sais que si les ayants droit des victimes à la mémoire desquelles nous allons prier dans quelques instants ont accepté la procédure proposée par la commission chargée de résoudre la question du passif humanitaire, c'est parce qu'ils ont décidé de venir à bout de l'agression par le pardon. Je voudrais aussi dire aux Mauritaniens que les événements douloureux des années 90 ne doivent plus jamais se reproduire chez nous.
Depuis le mois d'octobre, des équipes du Haut Conseil d'État sillonnent le pays. Leur mission, recueillir les doléances des proches des militaires assassinés dans les années 90 et discuter avec leurs ayants droit d'une procédure d'indemnisation. Ces démarches ont été accomplies dans la plus grande discrétion par le colonel Diaoumar.
Nous avons été au plus près des populations concernées par le passif humanitaire pour recueillir leur adhésion à notre démarche. Et c'est parfait, tout le monde y adhère. Et désormais, on peut estimer que cette page sombre de notre histoire relève du passé.
Vous leur avez promis de l'argent ?
De l'argent, je n'aime pas utiliser ce mot, disons, des petites aides symboliques pour subvenir un tout petit peu aux besoins de ceux qui, durant des années, ont été laissés abandonnés. Ceci ne s'exprime pas en termes d'argent ici. Dans notre culture, d'ailleurs, c'est infâme de parler d'argent dans des circonstances aussi douloureuses. Ce qui importe, c'est de reconnaître qu'il y a eu un mal absolu qui a été commis ici pendant de longues années et que l'État mauritanien assume toutes ses responsabilités, demande le pardon à la nation tout entière et voudrait poser désormais les jalons d'une Mauritanie nouvelle, débarrassée de tous ces problèmes-là.
Moi, je suis Mauritanien 100%. Je veux tous les présidents mauritaniens.
Dans ce dossier, c'est le COVIR, le collectif des victimes de la répression, qui a traité directement avec les autorités. Son président, Aboussi, est un ancien lieutenant arrêté et incarcéré dans la base militaire de Jreïda en 1990.
Nos victimes qui sommes restés au pays depuis plus de 20 ans, que nous nous empruntons les mêmes moyens de transport que nos bourreaux, depuis plus de 20 ans, que nous les côtoyons au quotidien, dans les rues et dans les mosquées, jamais il n'y a eu de vengeance privée. Nous n'avons pourtant pas oublié. Ne donnons-nous pas là, non pas seulement un gage de prédisposition à attendre que justice soit rendue, mais aussi une prédisposition au pardon. Nous étions prêts à le trahir solennellement, comme maintenant. Il est simplement qu'on nous le demanda. Cet acte d'humilité, de courage, nous l'avons longtemps attendu.
Pour le moment, les réparations promises se limitent aux crimes de sang, c'est-à-dire aux cas de militaires assassinés. 244 victimes ont été recensées par les autorités. Leurs veuves et leurs orphelins vont donc être indemnisés. Alassane Amadi Somaba fait partie des hommes d'affaires noirs qui ont tout perdu lors des émeutes raciales de 1989 à Nouakchott. Il se réjouit que l'État mauritanien se soit enfin saisi de cette épineuse question du passif humanitaire.
C'est un problème colossal. Il ne peut pas être réglé d'un coup. C'est pourquoi aujourd'hui la commission chargée du règlement pacimentaire a accordé sa priorité à la réparation pour les crimes humains. Les gens qui ont perdu leur vie, leurs pauvres veuves qui sont là, qui vivent très difficilement, leurs orphelins. Nous autres, les opérateurs économiques, c'est sans rancune qu'on a accepté volontiers de céder la priorité à ces gens qui sont quand même beaucoup plus souffrants. Mais nous sommes persuadés qu'après avoir réglé ce problème, l'État se penchera sur notre cas, parce que déjà une jurisprudence sera établie. S'ils ne règlent pas, nous les traduisons devant les tribunaux. Et là, ils vont, la facture sera salée.
Dans son bureau du centre-ville de Nouakchott, Fatimata Mbaye s'accorde un moment de répit pour avaler un sandwich. Cette avocate, présidente de l'Association mauritanienne des droits de l'homme, se bat sur tous les fronts. Cas d'esclavage, mineurs en conflit avec la loi, jeunes filles violées, aucun dossier humanitaire ne lui échappe. Adepte de la justice transitionnelle, elle souhaiterait que la Mauritanie s'inspire des modèles marocains ou sud-africains pour régler son passif humanitaire.
Tous les modèles que nous avons proposés, que ce soit bien le modèle sud-africain ou que ce soit le modèle marocain ou que ce soit le modèle actuellement qui est en train d'être expérimenté au niveau du Congo ou au niveau du Togo, la Mauritanie ne se retrouve pas encore. Donc on est en train encore de chercher et de savoir exactement, parce qu'il faudrait d'abord qu'il y ait une volonté de vouloir résoudre de manière définitive cette question, donc de vouloir tourner la page, mais on ne la tourne pas sans reconnaître le droit des victimes. Indemniser n'est pas une garantie totale, n'est-ce pas, d'éradication de violation des droits de l'homme massive dans un pays quelconque, que ce soit la Mauritanie ou un autre pays.
Octroyer un peu d'argent ou quelques terrains aux familles des disparus peut-il suffire à sceller la réconciliation nationale? Pour Aminatou Mintel Mokhtar, militante des droits de l'homme, la réponse est non.
On ne sait pas qui a tué qui. Il faut que les gens assument les responsabilités pour que le peuple mauritanien n'endosse pas la responsabilité de quelques individus, une poignée d'individus. Ces femmes savent bien que leurs maris ne vont plus retourner, que leurs frères ne vont plus retourner, mais il y a un minimum de dignité. Moi, je ne vends pas mon mari, ni mon fils, ni mon frère. Pour une parcelle d'État, il faut que je sache comment il a été tué, dans quelles conditions, que je sache tout de lui, qui l'a tué, qui a fait quoi.
Président de la JDMR, Ibrahim Assar a fait de l'unité nationale l'un des thèmes centraux de son discours politique. En 1986, il a lui-même été emprisonné pour avoir participé à la rédaction du Manifeste du Négro Mauritanien Opprimé, un texte qui décrivait les discriminations dont souffraient les Noirs dans la société des années 80. Aujourd'hui, le président de la JDMR salue le courage du général Abdelaziz, même si pour lui, il faut aller plus loin que les indemnisations. Ibrahim Assar demande l'extradition de l'ancien président Mahouya Oussidar Mektaïa.
Mahouya a été d'abord le principal instigateur de ce qui s'est passé. Je comprends que le général Abdelaziz, au nom de l'État mauritanien, parce que l'État quand même c'est une continuité, prenne ses responsabilités. Mais Mahouya qui n'est pas là, qui n'a jamais demandé pardon, qui est à l'extérieur, comme des Pinochet et les autres, ne doit pas rester impuni. Tant qu'il sera en vie, je crois que le problème sera toujours posé par les générations à venir. Par conséquent, je crois que l'État mauritanien gagnerait aussi en crédibilité en demandant effectivement à ce que Mahouya vienne répondre, n'est-ce pas, de tous les crimes d'ailleurs qu'il a commis contre tout le peuple mauritanien, y compris celui-là.
L'idée d'un grand déballage à la sud-africaine n'enthousiasme pas forcément les victimes. Ici, on a tendance à privilégier l'apaisement et personne ne souhaite raviver les tensions. Pourtant, le nom de Mahouya Oussidar Mektaïa revient dans toutes les interviews. Maïmouna Sy a perdu son mari, contrôleur des douanes, assassiné en 1990.
Taïa, c'est lui le responsable, il n'y a pas autre chose, c'est lui le responsable. Si des choses se sont passées, mais il était là. Si l'occasion se présente, tu peux porter une plainte, je la ferai.
Ça vous soulagerait si jamais il était jugé?
Et comment? Trop d'ailleurs. Au moins j'aurais la conscience tranquille. Parce que les responsables de la disparition de mon mari, du père de mes enfants, jugés. Vraiment, j'aurai la conscience tranquille.
Aujourd'hui, les témoins des années 90 semblent divisés en Mauritanie. Si les uns saluent la volonté de réparer financièrement les crimes commis par l'État, les autres réclament la justice. Ainsi, certaines associations et proches des disparus se focalisent désormais sur la loi d'amnistie. Votée en 1993 pour protéger les criminels, cette loi empêche aujourd'hui toute action en justice devant les tribunaux mauritaniens et freine, de facto, toute tentative de réparation judiciaire. Comme le dit un militant des droits humains, le jour où cette loi scélérate sera abrogée, alors vraiment, on pourra dire que l'État est prêt à répondre des actes du passé. Vingt ans après les événements de 89-91, comment faire pour vivre ensemble? Un grand reportage signé Manon Rivière, à la réalisation Marc Minatel.
Bonjour Manon Rivière.
Bonjour.
Alors la question que l'on peut se poser, c'est de savoir si à quelques semaines d'une présidentielle anticipée en Mauritanie, cette volonté d'indemnisation de la part des autorités ne participe pas d'un calcul électoraliste.
Oui, il y a beaucoup de gens qui se posent cette question. Lors de cette cérémonie à Kaédi le 25 mars dernier, j'ai pu rencontrer un habitant d'Alègue qui m'a, lui, dit que pour lui, tout ça, ça n'était que du cinéma, qu'un montage de la part des autorités, tout ça pour que la communauté noire, la communauté Alpoulard surtout, vote pour le candidat Abdelaziz, désormais déclaré pour cette élection du 6 juin. C'est donc une critique que l'on a beaucoup entendue au cours de ces dernières semaines. Parfois, la question est posée de manière plus indirecte. Les gens se demandent pourquoi le général semblait si pressé d'indemniser les victimes. Comme le disait un rescapé, on a bien attendu 20 ans, on aurait pu encore attendre quelques semaines et organiser les vastes débats dont le pays a besoin pour oser regarder son passé en face.
Et comment précisément est-ce que le gouvernement se défend face à ces accusations de calcul électoraliste ?
Alors bien sûr, il s'insurge face à de tels soupçons. Le colonel Gaoumar, que l'on entend dans le reportage, m'a ainsi expliqué que les démarches de terrain pour identifier les victimes avaient commencé dès le mois d'octobre, c'est-à-dire à un moment où on ignorait encore complètement qu'une présidentielle anticipée allait se tenir en juin 2009. Le commissaire aux droits de l'homme qui a beaucoup travaillé sur cette question m'a aussi expliqué que personne n'avait jusqu'ici osé s'attaquer à ce dossier et qu'il fallait le faire une fois pour toutes. Un autre ministre m'a confié que cette résolution de cette question tenait vraiment à cœur du général Abdelaziz. Le général Abdelaziz, il faut le préciser, était alors un proche de Maouya Oultaya et travaillait à la présidence. Mais d'après plusieurs sources indépendantes, il n'a pas lui-même participé aux exactions contre les négro-mauritaniens.
Manon Rivière, on le sait, vous êtes la correspondante des RFI en Mauritanie. Vous vous êtes donc assez logiquement concentrée en particulier sur ce pays. Mais pendant cette enquête, vous avez aussi été amenée à rencontrer d'autres victimes, notamment les personnes expulsées du Sénégal en 89 et qui, elles aussi, demandent aujourd'hui que justice soit faite.
Oui, en effet, dans ce reportage, j'ai choisi de me focaliser sur les réparations des crimes de sang commis en Mauritanie pour la simple raison que c'est aujourd'hui un thème d'actualité avec ces indemnisations qui ont été promises. Mais c'est vrai que d'autres victimes de cette période se sentent un peu oubliées des autorités. Ce sont surtout des Mauritaniens et des Sénégalais d'origine maure qui ont été chassés du Sénégal en 89. Bien sûr, ils ont pu assez facilement s'intégrer à la société mauritanienne. Ils parlaient le dialecte maure, le hassania. Mais eux aussi ont tout perdu. Ils ont aussi vécu ces expulsions comme une déchirure injuste. Cela, en fait, attend un geste des autorités sénégalaises. J'ai pu discuter avec un jeune homme qui avait 10 ans à l'époque et qui, lui, a perdu son père lors des émeutes xénophobes anti-morts à Dakar. Pour lui, et donc, le pardon n'est pas non plus possible sans la justice. Et comme bon nombre de victimes morts, il aimerait bien que les autorités mauritaniennes prennent ce vécu-là aussi en considération et plaident éventuellement leur cause auprès des autorités sénégalaises.
Merci beaucoup, Manon Rivière. Les deux volets de ce grand reportage sur la Mauritanie, celui qui a été diffusé hier et celui d'aujourd'hui sont bien sûr disponibles sur le site internet de votre radio. Je rappelle l'adresse www.rfi.fr.